Ils sont magistrats, avocats, notaires ou universitaires. Dans leur domaine, ils sont tous experts. Ce sont nos auteurs. Vous écoutez « Nos auteurs vous parlent », un podcast proposé par Lefèvre Dalloz. Sandra, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes docteur en droit, doctoresse lettres et diplômée de Sciences Po Paris, où vous avez longtemps enseigné le droit de la propriété littéraire et artistique, que vous pratiquiez en tant qu'avocate. Membre du comité de rédaction des cahiers de la justice, pour lesquels vous suivez l'actualité éditoriale, droit et littérature notamment, mais aussi chroniqueuse pour l'émission « La plume dans la balance » de Denis Salas sur Amicus Radio, vous vous intéressez depuis plusieurs décennies maintenant à un domaine de recherche vous permettant d'unifier vos compétences, à savoir le droit et la littérature. Et droit et littérature est justement le sous-titre du colloque que vous organisez du 19 au 25 août prochain au château de Cerisy-la-Salle, intitulé « Là où se déploie le monde ». Vous avez publié plusieurs ouvrages, « Droit et littérature », et c'est sur le nom de l'auteur, aux Presses universitaires de France en 2021, « Gide, l'assignation à être », aux éditions Michelon en 2005, « Afin que le réel advienne », aux éditions Marais Martin en 2021, et de nombreux articles consacrés à ce domaine. Pourquoi organiser une telle rencontre ?
Alors, droit et littérature, c'est tout à la fois la rencontre de deux langues, de deux modalités de rapport au monde, mais c'est aussi une confrontation entre un univers normatif qui s'exprime au présent presque perpétuel, en quelque sorte, une sorte de présent d'éternité, et un univers critique ou fictionnel qui met à distance la certitude. C'est aussi un dialogue fructueux dans la mesure où il favorise la réflexivité. Ce face-à-face est générateur d'une dynamique tendue vers une forme d'exigence dans la quête du juste, ou de ce qui pourrait s'appeler le juste. Voilà, et tout cela à travers des registres pluriels.
Très bien, mais en pratique, de quoi s'agit-il ?
Alors, je citerai une définition qu'a donnée Laurent Lotti de ce qu'il appelle l'indisciplinarité. Alors, il dit « l'indisciplinarité est la pratique » consistant à élaborer une recherche à partir d'un questionnement personnel, d'un étonnement, en utilisant et en croisant librement des savoirs disciplinarisés, mais en ne se soumettant à aucune discipline, ce qui suppose beaucoup d'autodiscipline, et en s'opposant, le cas échéant, à ce qui dans les disciplines empêche parfois de penser et de découvrir. Tout ça pour dire qu'il s'agit d'une démarche qui n'est pas théorisée. À aucun moment on vous dira comment doctement il faut faire, quelle méthode ou comment appréhender le sujet. Il n'y a pas de, je dirais, c'est pas une discipline. Non seulement elle n'est pas institutionnalisée, mais elle n'est pas théorisée. Ça, c'est un élément important. C'est donc quelque chose qui diffère de l'indispensable pluridisciplinarité, mais aussi de l'interdisciplinarité. En gros, il s'agit, en respectant chaque discipline dont elle sollicite l'accompagnement, et sans, en évitant le butinage décoratif, parce que ça existe très souvent, qu'on aille piocher, dans la poésie pour faire beau dans un texte. Donc là, il ne s'agit pas de butinage décoratif, mais il s'agit de penser un objet sans surplomb et sans système, afin non de déconstruire cet objet, mais de le regarder comme un sculpteur tourne autour de sa sculpture pour mieux en envisager la croissance.
Sandra, pouvez-vous nous dire comment ces différents aspects seront traités ?
Alors, il y aura trois temps, parce qu'il faut bien organiser les choses, au cours des 6 jours, puisque ce colloque dure 6 jours, et c'est une particularité des colloques de Cerisy-la-Salle. Premier temps, ce que j'appelle la possibilité d'un dialogue, où des écrivains et des universitaires visiteront des cas précis, exposeront des pratiques, pour montrer comment justement ce croisement, cette rencontre peut avoir lieu. Parmi ces écrivains, nous aurons par exemple Gisèle Bienne, qui est l'autrice de La Malchimie. Nous aurons également Odile Barral, qui a écrit Les passeurs de murailles, ou encore Jean-Paul Honoré, qui a écrit Un lieu de justice, parmi de nombreux livres, tout ça. Mais Un lieu de justice, j'ai cité ceux qui mettaient le droit en question. Donc nous aurons des écrivains, mais nous avons aussi des universitaires qui sont des littéraires, des juristes, ou des historiens, ou des philosophes. Le deuxième temps pourrait s'appeler, je l'ai appelé d'ailleurs, Les personnages de la pensée. J'ai emprunté ce titre au dernier ouvrage de Valère Novarina, ouvrage très intéressant où les personnages ont pour nom des fonctions, Alors, elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être caractérielles, enfin bon, etc. Et chacun de ces personnages joue le rôle de la fonction hein, ou de caractère. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et là, c'est simplement une manière d'inviter les participants à traiter, par exemple, soit de thèmes, soit de personnages. Dans les fictions qui peuvent servir de support à une réflexion droit et littérature.
Pour illustrer, vous avez quelques exemples de fonctions
Par exemple, la bâtardise. Alors bien sûr, il n'y a plus d'enfants bâtards aujourd'hui en France, mais il y en a eu dans la mesure où ce statut était créé par le droit, donc c'est une création juridique, d'autant plus fictionnelle que l'enfant est réputé justement être naturel, ce qui a priori bon. Mais nous aurons également les femmes. C'est un peu un incontournable, mais c'est important de bien voir que dans certains romans de certaines époques, les femmes ont des comportements qui sont directement dictés par leur place juridique et non pas par leur caractère, on va dire leur temps. Mais ça peut être aussi des notions beaucoup plus abstraites, comme la laïcité, par exemple. Hein. Voilà, donc c'est quelques exemples. Ou l'auteur qui est un personnage qui permet un double traitement. L'auteur, c'est à la fois une qualité juridique, mais c'est aussi un personnage dans la littérature. Voilà, donc beaucoup de... Enfin, en tout cas, les participants ont proposé un certain nombre de sujets qui rentrent dans ce cadre-là et qui vont nous permettre d'avoir un éventail comme ça d'exemples. Troisième temps, cette fois-ci, je le titre en empruntant la très belle expression d'Alain Supiot qui s'appelle « Une créance de sens ». Il dit que le droit, je dirais, doit honorer une créance de sens par rapport à tous ceux naturellement qui en attendent beaucoup. Et là, c'est une double réflexion, d'abord sur cette pratique de droit et littérature, à quoi ça sert? Est-ce que c'est simplement un jeu intellectuel pour se divertir un peu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter, sans, je dirais, prétention, hein, mais apporter quelque chose aux juristes, mais également aux littéraires, se poser la question, alors par exemple, hein, de l'utilisation pédagogique qui peut avoir lieu. Bon, ça a été le cas, par exemple, aux États-Unis, à partir du début du XXe siècle, faire en sorte que les élèves magistrats qui n'avaient pas suffisamment d'expérience personnelle puissent piocher dans la littérature des exemples qui permettraient d'augmenter leur savoir, leur capacité d'empathie, par exemple. Hein, mais ça peut être aussi, je dirais, une vertu de témoignage, une vertu testimoniale, par exemple, ou bien un foyer de propositions, d'extrapolation, voire de création de concepts pour penser autrement des réalités que l'on ne voyait que d'une certaine façon.
Et y a-t-il un prisme, un angle auquel le colloque accordera une priorité ?
Beaucoup de registres sont convoqués. Nous allons travailler à la fois sur des textes alors, qui sont des témoignages, d'autres textes qui sont des fictions. Hein, la majorité, d'ailleurs, ce sont des fictions. Mais je dirais, ça peut aussi partir de la norme. C'est réversible dans les deux sens. Donc, tous les registres littéraires sont convoqués. Il n'y a pas du tout d'exclusive. Et c'est ce qui, je pense, fera la richesse.
Avez-vous un objectif, un dessein particulier en organisant ces jours en Normandie dans un haut lieu de l'histoire de la pensée du XXe siècle?
Alors, tout d'abord, c'est la joie. Je l'avoue, et c'est très, très personnel. Ça fait plus de 30 ans que je fréquente Cerisy-Lassalle à la fois en tant qu'auditrice et en tant qu'intervenante. Et je suis particulièrement, heureuse, je ne peux pas dire les choses autrement, de mener à bien ce projet de droit et littérature. Voilà, ça c'est vraiment, alors c'est peut-être très, très égoïste, hein, ça, un objectif personnel, on va dire, mais un objectif personnel qui a pour désir vraiment qu'il soit partagé. C'est-à-dire que toutes les personnes qui seront présentes goûtent la même joie, et ça serait quelque chose de très bien. Alors ensuite, j'aimerais favoriser la rencontre réelle entre littéraires et juristes. Et quand je dis littéraires et juristes, ça englobe toutes les autres formations. C'est-à-dire, je cite bien aussi bien des écrivains que des littéraires universitaires, que des magistrats, des avocats, des universitaires en droit, des historiens, des philosophes. Je suis là en train de décliner l'identité de toutes les personnes qui vont intervenir, hein, qui ont proposé des communications. Cette rencontre, elle aura lieu lors des communications, naturellement, hein, qui durent toutes entre 20 et 30 minutes. C'est une particularité à Cerisy, c'est qu'on prend le temps hein, de parler, de développer une pensée. Une rencontre qui aura lieu également à travers les débats, qui durent autant de temps que les communications, donc ça laisse un temps d'échange avec la salle absolument extraordinaire. Mais c'est aussi, et ça c'est quelque chose de très agréable, une rencontre à travers les repas pris en commun, du petit déjeuner au déjeuner, au goûter et au dîner. Nous sommes tous ensemble, nous partageons, je dirais, un grand réfectoire où d'ailleurs nous sommes très bien nourris. Et ce sont des moments de partage, de vraies conversations, de vrais dialogues où on peut poursuivre ce qui s'est dit en communication, mais comme on peut complètement parler d'autre chose. Et il est évident que l'origine diverse des participants favorise là aussi des débats tout à fait intéressants. Voilà, donc cette vraie joie, elle est là de différentes façons. J'espère qu'il en sortira quelque chose. Je dois le dire que je dois cette occasion à Edith Urgon, la directrice du centre, qui a accueilli tout de suite ma proposition, alors que voilà, je pouvais parfaitement hésiter à le faire. Donc voilà, je trouve que c'est une véritable, une belle occasion en tout cas de favoriser cette rencontre entre différentes pensées et différents tempéraments aussi, je le dis, puisque je sais, puisque je suis dans le secret des choses, que les différentes personnes qui vont parler sont des personnes de tempéraments, de cultures très différentes. Et voilà, et il ne s'agit pas de les confronter, il s'agit de les réunir.
Eh bien Sandra, avec quelques mois d'avance, nous souhaitons un bon colloque et merci d'être venue jusqu'à nous. Dans cette mini-série de podcasts consacrée au droit et à la littérature, deux épisodes restent à venir. Le premier portera sur la scène judiciaire comme lieu commun littéraire, le second sur les rôles dynamiques et définitionnels du droit comme de la littérature. Restez à l'écoute en vous abonnant au podcast du droit et du chiffre.